franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jouan.
Bonjour.
On commence par la vague de chaleur qui s'est installée sur la France.
Il faut habiter dans le bac à légumes pour ne pas l'avoir remarqué, écrit Jean-Denis Renard dans Sud-Ouest. La canicule frappe notre région depuis ce week-end. Et si le terme est souvent usurpé, il s'agit cette fois d'une canicule qui répond aux critères du genre, au moins 3 jours, des températures autour de 35 en journée et de 20 degrés la nuit. Des candidats au bac qui s'épongent, à retrouver dans tous vos quotidiens, des restrictions d'eau qui font leur première apparition, elles font la une de Libération Champagne ou encore de l'Est Éclair, des personnes âgées particulièrement sensibles et cette question qui ressurgit dans la Croix, est-il possible de revivre le cauchemar de la canicule de 2003 qui provoqua une surmortalité de 15 000 personnes. Il existe aujourd'hui un système de veille très sophistiqué qui permet aux autorités sanitaires de surveiller quasiment en temps réel le nombre de passages aux urgences des plus de 75 ans ainsi que celui des décès. Alors est-ce suffisant? Eh bien au-delà du plan national, c'est encore la solidarité de proximité qui peut permettre d'éviter le pire, expliquent les professionnels. Il fait chaud en été, enfin même au printemps, et alors, s'il ne faut pas confondre météo et grande tendance climatique, celle dont on sait désormais qu'elle dépend aussi de l'activité humaine, le site notretemps.com reprend une étude parue dans Nature Climate Change. Inquiétante cette étude, puisqu'elle affirme que les vagues de chaleur meurtrières vont devenir plus fréquentes encore, et notamment dans les zones tropicales, et ce, même si la hausse du thermomètre mondial est limitée à 2 degrés, comme le prévoit l'accord de Paris. Actuellement, 30% de la population mondiale est exposée à des vagues de chaleur potentiellement meurtrières. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas contenues, ce serait les 3/4 de l'humanité qui, au moins une fois dans l'année, seraient touchées d'ici la fin du siècle. Indonésie, Brésil, Afrique de l'Ouest, mais aussi les villes de Washington, Miami ou Hong Kong. Les chercheurs ne disent évidemment pas que ces vagues seront forcément létales, certaines parades pouvant être mises en œuvre, de l'équipement individuel en climatisation à la politique publique de prévention. Il fait chaud et alors, eh bien, va falloir sinon s'y habituer, au minimum s'y préparer.
La bataille de Mossoul en Irak, France Télévisions a donc annoncé cette nuit le décès de Stéphane Villeneuve après celui de son confrère irakien.
Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad, tous deux tués hier par l'explosion d'une mine à Mossoul dans le nord irakien. Ils accompagnaient Véronique Robert, également blessée, pour un reportage sur la reprise de la ville pour l'émission Envoyé spécial de France 2. Un journaliste qui travaillait pour le Figaro, Samuel Forêt, était à leur côté. Lui aussi a été touché, mais plus légèrement, par un engin explosif, donc improvisé de Daesh, nous dit le quotidien ce matin. Tiré d'affaire, mais choqué, il a envoyé un tweet hier. « Je vais bien, je suis immensément triste pour Bakhtiar et pour mes confrères. Merci de ne pas me solliciter ces prochains jours. » À lire dans le Figaro ce matin son reportage à Kayara, petite ville à 60 km de Mossoul. Il y décrit la bataille qui fait rage entre l'État islamique et les Irakiens. Des corps, les mains liées, une balle dans la tête apparaissent de plus en plus autour de Mossoul, raconte-t-il. On les retrouve au bord des routes, abandonnés à l'air libre aux charognards. Ces cadavres racontent des règlements de compte, des luttes de pouvoir, des guerres de territoire. À lire aussi pour mesurer les risques encourus par ceux qui nous donnent à voir cette guerre, le reportage dans Paris Match cette semaine. Mossoul, l'heure de la libération et de la traque des djihadistes, français entre autres. Un grand reportage signé Véronique Robert, Jean-Michel Caradère, avec des photos de Bakhtiar Haddad, qui a permis à tant de confrères français de travailler sur place. Bakhtiar Haddad, journaliste kurde qui riait beaucoup de tout. Hommage ce matin de Luc Mathieu dans Libération. Bakhtiar parlait avec les civils épuisés et traumatisés. Il traduisait dans un français parfait leur récit des horreurs de la vie sous l'État islamique. Il aidait à porter les blessés. Depuis le début de l'offensive, il était de toutes les batailles. Bakhtiar Haddad était sur la ligne de front pour sentir, voir et comprendre.
Retour à l'actualité politique, Hélène, avec la nouvelle Assemblée nationale élue dimanche et quelques particularismes régionaux.
Que se passe-t-il dans l'ex-bassin minier, s'interroge à sa une la Voix du Nord. L'ex-Nord-Pas-de-Calais a envoyé 5 députés Front National à l'Assemblée sur 8. Christophe Caron raconte dans le quotidien cette zone de Bruay-la-Bussière à Fresnes-sur-Escaut, ce pays sculpté, dit-il, à la force des bras et des machines. Terre de désolation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, dit-il. 10 points de plus de chômage que la moyenne nationale, un taux de pauvreté de 23% et même une espérance de vie rognée de 6 ans par rapport à un francilien. Le territoire se sent abandonné, pourtant ce n'est pas totalement le cas, plaide-t-il. Des sommes considérables ont été investies pour réhabiliter les cités minières et transformer les friches en zones de loisirs. C'est Lens que l'État a choisi pour son Louvre-Bis. Et puis il y a aussi ce plan abondé par l'État de 100 millions d'euros pour le renouveau de l'ex-bassin minier, signé quelques jours avant les élections par le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve. Un peu suspect à quelques semaines des élections, écrit-il, un peu tard aussi pour les habitants. 5 circonscriptions détenues par le Parti Socialiste, dont les élus ont régné sans partage depuis des années et dont certains maniaient le paternalisme autant que le clientélisme. L'électorat a longtemps suivi, mais aujourd'hui, explique une politologue dans l'article, avec le chômage et la fin des grandes structures industrielles, il n'y a plus ce monde structuré des travailleurs. Le FN est arrivé justement parce que c'était déstructuré, dit-elle. Rien n'arrive par hasard, conclut le journaliste.
On termine par une réconciliation et une langue nouvelle qui fait son apparition.
Pendant toute sa campagne, il a multiplié les pics, pour ne pas dire les insultes, vis-à-vis des journalistes. Eh bien, l'heure est aux retrouvailles heureuses. Dans un article de Libération signé Rachid Laïrech, on apprend que Jean-Luc Mélenchon a prévenu les médias et donc les journalistes de l'heure de son arrivée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entouré de ses 16 députés France Insoumise, soit son futur groupe qu'il souhaite déjà discipliné et cohérent. Photo de groupe et hymne à la joie, ça valait bien de se réconcilier avec le tenant du système, ce mystérieux système.
Insoumis et discipliné à la fois donc.
Exactement. Oxymore qu'adore Jean-Luc Mélenchon. Et puis un article dans l'Opinion qui nous décrit la novlangue en cours à l'Élysée et à Matignon. On ne dit plus feuille de route et objectif pour les ministres, mais draft, brouillon en français, draft, pour faire du bottom-up, précisons à Matignon. En gros, faire remonter la parole de bas en haut. Mais attention, pour les rédiger, c'est bottom-up, et ben faut faire du top-down. En gros, faut partir du programme de Jupiter. Tout ça démontre bien que Macron et Philippe, qui matchent bien, paraît-il, entre eux, staffent tout et sont très processés.
Oh là là.
Et ben voilà, il va falloir vous y mettre, Thierry Solaire, et apprendre ces novlangues truffées de barbarisme venues tout droit du monde de l'entreprise et des cabinets d'audit. Une langue de bois anglicisée, conclut en s'amusant Nathalie Segoun dans l'Opinion. Les constructifs en anglais pour votre futur nom de groupe, ça donne quoi, à votre avis, Thierry Solaire? Vous avez une idée?
Ouais, je vous dis ça vite.
Non, c'est une pollution, là. C'est une... Merci, Hélène Jouan, pour cette revue de presse.